Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast de Nakan. Je suis très heureux d'être à nouveau dans vos oreilles puisque si vous suivez tous nos épisodes, vous aurez remarqué que les deux dernières fois, je n'étais pas là. Et cette fois-ci, j'ai décidé de m'accrocher à la branche et de reprendre du service. Mon compère de podcast, Greg, l'éditeur du blog de Nakan, est à mes côtés. Salut Greg.
Salut Armano, comment ça va?
Écoute, ça va. Quelques sueurs froides là pour commencer l'épisode, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. On a dû recommencer. Déjà une fois, j'espère qu'on va s'arrêter là. Greg, je voulais revenir rapidement avec toi sur l'épisode que tu as fait avec tes camarades du Tri Team Lutri et juste pour avoir ton impression après la petite course que tu as fait pendant que je n'étais pas sur le podcast. Il me semble que tu as pris un départ.
Ouais, un petit triathlon découverte, c'est ça?
Petit triathlon découverte, distance Ironman quand même.
Ouais, c'est ça. Ouais. Une course très attendue, hein. Ça faisait une année et demie qu'on devait l'avoir couru cette course, donc ouais, on l'attendait avec impatience.
Bon, et est-ce que ça s'est quand même bien passé pour toi?
Écoute, ça s'est bien passé. Moi, je trouve que ça s'est bien passé. J'ai fait une course solide. J'avais pris des petits risques dans ma stratégie de course. Je l'ai expliqué dans le dernier épisode en partant fort sur le vélo, en essayant vraiment de faire une partie vélo forte, et ça a tenu le coup, hein. J'étais vraiment content de ma partie vélo, c'était même mieux qu'espéré. Et puis tout est bien allé, ou relativement bien allé, jusqu'au semi-marathon sur la course à pied. Donc oui, en gros, j'étais content. Après les 21 km, c'est devenu plus compliqué, mais c'est vrai qu'avec des sorties longues entre guillemets de maximum 26 km pendant ma préparation, il fallait pas que je m'attende à rentrer le marathon facile comme ça sans transpirer, parce que ça allait pas se faire. Mais pour autant, c'est pas mon pire marathon sur la distance, de loin pas. Donc je suis content de ma course, et stratégie risquée au niveau de la stratégie de course, mais payante.
Ouais, c'est vrai que 26 km au max sur marathon, et qui plus est Ironman, ça fait peut-être un peu juste, hein. Moi, j'avais en tête déjà sur un marathon sec de faire au moins deux sorties de 32-33 km, donc sur Ironman ça fait peut-être un peu short, non?
Écoute, moi j'ai toujours privilégié des entraînements plus courts pour ces distances, parce qu'on se casse quand même pas mal sur des distances qui vont au-delà de 30 km. Tout le monde n'est pas forcément capable de les encaisser, et puis surtout de relancer la préparation après, hein. Moi, c'est des courses, des sorties, même si je les fais en endurance fondamentale, qui me coûtent 3, 4, 5 jours de récupération pour pouvoir repartir après. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'en faire plusieurs et puis de devoir à chaque fois attendre une semaine avant de remettre le couvert? Ou alors, est-ce qu'on essaie de faire plus court, mais plus souvent? Et voilà, j'ai essayé cette stratégie-là. À tester sur un marathon à sec, je dirais que c'est là qu'on vérifiera vraiment si c'est au moins aussi efficace que des sorties plus longues.
Bon, alors justement, on parle de volume, on parle de répétition, on parle de récupération. Il y a plein de termes qu'on va pouvoir aborder dans l'épisode d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui on avait l'intention d'aborder le terme des camps d'entraînement, des stages d'entraînement. Peut-être que t'en as pas fait assez pour préparer l'Ironman de Thun, ou du moins t'en as fait suffisamment, mais est allé sur un an et demi avec ce satané Covid. Et pour les plus fidèles de nos auditeurs, ils auront en tête que on a terminé justement la série de hors-série de préparation à l'Ironman de Thun, eh bien avec votre retour de votre stage d'entraînement à Fuerteventura. Alors, est-ce que ça te va comme programme aujourd'hui de parler justement de stage / de camp d'entraînement?
Alors oui, évidemment que c'est une thématique intéressante, et que beaucoup de sportifs qui visent des performances et puis des épreuves de longue distance, eh ben vont être amenés peut-être une fois, deux fois dans une préparation à consacrer une semaine pleine, par exemple, pour aller s'entraîner spécifiquement à certains objectifs, ou alors pour mettre en route la saison sportive. C'est des choses qu'on voit chez les cyclistes, chez les coureurs à pied ou chez les triathlètes. Donc une thématique qui, je pense, intéressera certaines et certains de nos auditeurs.
En tout cas, on l'espère, c'est justement pour ça qu'on l'aborde aujourd'hui. Alors déjà, j'avais une première question. Je pense que beaucoup de gens se posent cette question. Quelle est la différence entre le stage d'entraînement, voire le camp d'entraînement, et peut-être des week-end shocks ou des sessions un peu plus complètes d'entraînement?
Après, ça dépend. Moi, je pense qu'il n'y a pas de grosses différences. Ça dépend un peu de comment on planifie tout ça. Pour moi, un camp d'entraînement ou un stage d'entraînement, ça va de 3 jours à 2 semaines. Après, en fonction de la durée, en fonction de l'objectif visé par le stage, on va planifier différemment les journées d'entraînement et puis le programme complet. Et c'est surtout ça qui va dicter un petit peu les différences qu'il y aura et aussi peut-être un petit peu la période à laquelle on va l'aborder. C'est clair que si au printemps on décide d'aller faire un camp dans des conditions plus clémentes autour de la Méditerranée ou ailleurs, ce sera différent d'une préparation très spécifique qu'on va faire 3 semaines avant une course importante par exemple. Donc voilà, il y a plein de petites nuances qui vont changer un petit peu la définition qu'on va avoir. Mais ensuite, pour moi, bah voilà, à partir du moment où on consacre, comme je le disais, peut-être même un week-end super intensif ou 2 semaines qui sont vraiment destinées à développer quelque chose sur un petit peu plus long terme, c'est pour moi un stage ou un camp d'entraînement.
Est-ce que le stage est nécessaire dans une préparation? Est-ce que c'est un passage obligé selon toi? Est-ce que ça va dépendre des sports, des distances, des objectifs, où finalement on peut s'entraîner tout au long de l'année, tout au long de la saison, avec un objectif en tête, sans forcément aller se faire un stage ou des week-end shocks, enfin, augmenter la charge d'entraînement de façon significative pendant quelques jours.
Encore une fois, la réponse, elle est pas absolue. Pour moi, c'est pas complètement nécessaire, mais il n'y a pas besoin de partir de chez soi pour faire un espèce de mini stage sur un week-end très chargé, par exemple, en entraînement sportif. Et puis, le lundi, on retourne au bureau, mais le soir, on en remet encore une petite couche pour vraiment bien ficeler le truc. Et puis, bah voilà, on aura fait un stage, mais sans partir de chez soi, sans vraiment se mettre dans les conditions d'un stage tel qu'on l'entend, où on part en voiture, en train, en avion, et puis on se retrouve dans un endroit où vraiment, qui est dédié au sport. Ça peut être un centre sportif, ça peut être dans des conditions plus idéales pour pratiquer son sport. Ça, c'est clairement pas obligatoire, hein. Il y a des gens qui gagnent des Ironman sans jamais partir de chez eux. Et puis, il y en a qui réalisent chaque année 2-3 stages. Donc, pour moi, il n'y a pas de vérité absolue à devoir faire sa semaine. À mon sens, ça peut être un accélérateur au niveau de sa préparation sur certains aspects. Je pense qu'on va y revenir un petit peu plus tard, mais il n'y a pas de nécessité absolue pour performer à faire ce genre de semaine d'entraînement.
Bon, alors, le décor est planté. On l'a compris. Hein, et ça faisait un peu partie des disclaimers qu'on voulait annoncer aujourd'hui, c'est-à-dire que le stage n'est pas un passage obligé pour une saison sportive, voire même pour un objectif sportif. En revanche, ça peut contribuer au bien-être du sportif ou de la sportive, ça peut contribuer aussi au bien-être moral, mental, psychologique de la personne qui va peut-être être rassurée en augmentant significativement la charge, mais encore une fois, c'est pas un passage obligé. Admettons que on a un gros objectif en fin d'année. Prenons ton exemple, tu prépares Thun, l'ancien Ironman de Zurich qui a été légèrement décalé. Comment est-ce que tu vas placer ton stage? Est-ce que ça va être une semaine avant, 15 jours avant, un mois avant, 6 mois avant? Idéalement, à combien de temps de ton objectif tu vas essayer de placer ça?
Ça va vraiment dépendre de l'objectif visé, d'une part. Ça va dépendre aussi de ma planification d'entraînement. Moi, en général, j'ai tendance à faire ces stages ou ces camps d'entraînement sur une semaine en début de saison pour vraiment commencer la saison. C'est pas forcément une vérité absolue parce que il y a des risques inhérents à ces semaines où on charge beaucoup. Et en début de saison, ça peut être un petit peu dangereux où on a des semaines qui sont encore pas très très chargées. On fait un peu de foncier, on fait du 5, 6, 7 heures de sport par semaine. Et puis tout à coup, on part 5, 6 jours. Alors moi, j'aime bien partir dans des conditions un petit peu plus chaudes que les endroits où je suis. Quand c'est ici, février, mars, encore un petit peu dans la fin de l'hiver. C'est début de printemps, mais qui dit pas son nom. Et puis, où il fait encore très humide. Parfois froid, etc. Donc moi j'aime bien partir un peu au chaud, alors que ce soit dans le sud de la France, que ce soit en Espagne, que ce soit au Baléares ou aux Canaries. Mais voilà, c'est des destinations que j'affectionne particulièrement pour ce genre de camp. Et puis il y a aussi des conditions qui sont relativement bonnes pour rouler à vélo, pour courir et pour nager dans ces destinations-là. Donc pour un triathlète, c'est idéal. Mais voilà, il faut prendre en compte le fait que si je le fais en début de saison, puis que j'ai du 7-8 heures de charge maximum par semaine, tout à coup, passer une semaine où on va faire entre 20 et 30 heures de sport, ça va être un énorme impact au niveau de l'effort, et il y a un risque non négligeable d'aller à la casse. Donc, il faut le préparer. En fait, il y a presque une préparation au camp d'entraînement qui participe lui-même à la préparation de la saison à venir. Donc peut-être augmenter un petit peu la charge avant, préparer des semaines un tout petit peu plus chargées avant pour commencer à s'habituer à mettre de la charge. Et puis sur le camp lui-même, pas non plus faire des multiplications par 4 ou 5 du volume qu'on a l'habitude d'encaisser sur les dernières semaines, parce que ça peut être dangereux. À ce niveau-là, peut-être qu'il est plus intéressant de faire un camp quand la préparation a déjà commencé. Et dans ton cas, tu parlais de la préparation de Thun. C'est vrai que moi, 3 semaines avant, j'ai fait une semaine avec énormément de volume, plus que d'habitude. Je crois que j'ai fait une 20aine d'heures de volume sur cette semaine-là, qui était la dernière grosse semaine de charge. Alors, j'étais chez moi, mais simplement, j'avais des congés et j'ai rayonné un petit peu autour de chez moi. Donc, je suis pas parti en stage d'entraînement, mais je l'ai planifié un petit peu comme tel. Et puis j'ai pu mettre vraiment du volume et de l'intensité parce que j'étais sur la semaine de pic de mon entraînement. Et donc du coup, je savais que derrière, j'avais déjà bien travaillé à encaisser le volume. Et puis qu'ensuite de ça, à part un rappel sur le triathlon de Lausanne où vraiment il y avait de nouveau de l'intensité et peut-être un petit peu de durée, je savais que c'était quasiment de la récupération jusqu'à Thun. Alors de la récupération contrôlée, on va dire. Mais donc... soit au début de la saison, soit proche de l'événement. Après, il faut que ça s'intègre à notre planification d'entraînement. Donc, à regarder comment est-ce que nous, on encaisse, comment est-ce qu'on récupère. Et puis, je pense que ça doit être très individualisé.
Effectivement, tu parles de volume et d'intensité. C'est vrai que j'ai lu ici et là que sur un stage d'entraînement, on évite d'augmenter plus de 2,5 fois le volume habituel d'entraînement parce que le corps ne sait pas forcément l'encaisser. Alors, certaines personnes vont peut-être encaisser x3, x4, x5. Pourquoi pas? Simplement, n'oubliez pas que si vous encaissez à l'instant T, il y a des chances que vous l'encaissiez plus déjà soit une deuxième fois, soit quelques semaines après et qu'il y ait des bobos qui apparaissent ou même une énorme fatigue musculaire ou générale. Donc ça, c'était pour la partie vraiment savoir quand est-ce qu'on va placer ces stages, on l'aura bien compris. Soit toi, tu conseilles en début de saison, soit éventuellement stratégiquement quelques semaines avant la compétition, peut-être pour se tester, peut-être pour se rassurer, mais aussi pour remettre une bonne couche à quelques semaines avant l'objectif. Il y a une chose peut-être qui serait nécessaire de rappeler, qu'il faudrait pas trop négliger, c'est aussi la partie récupération après un stage d'entraînement. On en reviendra un petit peu après sur justement comment est-ce qu'on va paramétrer, configurer, programmer son stage d'entraînement. Mais peut-être aussi, vu qu'on est dans les généralités liées au stage, ne pas négliger la récupération post-stage. C'est pas parce qu'on a chargé comme des brutes pendant le stage qu'on se sent bien à la sortie du stage qu'il y a là, on peut rester sur le même volume d'entraînement ou le même volume ou même la même intensité d'entraînement dans les semaines qui suivent. L'objectif, c'est effectivement de mettre une grosse charge pendant le stage, soit pour lancer la saison, soit pour finaliser la préparation d'un gros objectif, mais ne pas faire l'impasse sur la récupération post-stage, parce que sinon, là, on va droit dans le mur.
Alors oui, c'est pour ça que je disais qu'il faut vraiment l'intégrer dans son plan de préparation, et aussi bien au niveau de l'amont que de l'aval, comme tu le dis. Après, derrière, il doit y avoir aussi une adaptation du plan d'entraînement pour encaisser, pour profiter de la surcompensation. Donc il faut récupérer, il faut pas récupérer trop non plus, parce que si on veut bénéficier de l'effet de surcompensation, il faut vraiment surveiller ses paramètres et sa fatigue. Et puis dès que c'est possible, il faut en remettre une couche pour essayer de bénéficier de tout ce qui a été acquis pendant le stage d'entraînement. Ça, c'est surtout vrai pour les stages d'entraînement où on va faire du volume pour développer de l'endurance, de la force, de la vitesse, etc. Mais faut pas oublier non plus que des camps d'entraînement, on peut planifier qui sont un petit peu plus long, hein. On disait que c'était une semaine, peut-être des fois 15 jours. Là, forcément, si on rajoute de la charge tous les jours, au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc, on peut aussi bénéficier du côté développement technique, d'un aspect technique pendant ces camps d'entraînement. Ça entraîne pas forcément trop de charge et de fatigue, mais on peut aller faire un stage d'entraînement de course à pied, par exemple, pour vraiment améliorer un aspect de son économie de course, par exemple, ou de sa technique de course. Ou alors, on peut faire des camps de triathlon où un jour, au milieu de son camp, pour essayer de faire un jour de récupération, mais qu'on met encore à profit, on peut travailler des techniques de transition, ou alors on peut faire vraiment des exercices techniques de natation pour récupérer des grosses sorties vélo et course à pied qu'on fait en général dans ces stages-là. Donc il n'y a pas que la partie, je dirais, entre guillemets, bourrinée pour augmenter la force et l'endurance, mais on peut aussi exploiter une partie de ces camps d'entraînement pour développer de la technique, mettre à profit le temps qu'on va récupérer, parce que j'ai fait des camps camp d'entraînement, je crois, de maximum 7 jours, mais il y a un jour au milieu des 7 où je faisais un day off. Alors, c'était pas un day 100% off, mais c'était, voilà, une journée où je mettais à profit soit une course à pied courte, mais peu intensive, où je développais des qualités techniques, ou alors de la natation, je développais de la technique et ce genre de choses. Et voilà, et la technique, bah, c'est toujours quelque chose qui est gagné aussi pour la suite et pour le long terme.
Mais attends, là, tu parles de tous ces petits exercices qu'on se dit que ce serait bien de les faire tout au long de l'année, tout au long de la saison, et qu'on prend jamais le temps de faire. C'est peut-être justement le moment de les placer pendant le stage, quand on n'a pas forcément la famille autour, quand on n'a pas forcément les potes autour, et quand on peut se concentrer justement sur sa préparation, qu'elle soit spécifique ou justement généralisée, technique, et voir tous ces aspects qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien.
C'est ça, mais voilà, c'est important de les intégrer quand même dans sa préparation avant et après ces rappels techniques. Mais là, on a peut-être plus de temps pour développer quelque chose, faire vraiment du drill, hein, ce qu'on appelle vraiment répéter de manière très très fréquente pendant une journée ou deux jours, où on va travailler un aspect technique mais à fond, pour assimiler voilà cette technique là. Ça peut être tout bête, hein, mais pour un triathlète qui veut vraiment performer et qui soigne chaque détail, ça peut être la récupération d'un gobelet sur une table de ravitaillement, et puis comment se ravitailler avec ce gobelet en courant, et puis une fois que cette technique là elle est maîtrisée, et ben après c'est bon, il y a plus qu'à faire du rappel de temps en temps à l'entraînement, et puis c'est bon. C'est la même chose pour les transitions, quand un triathlète a pas encore l'habitude de fixer ses chaussures sur son vélo avec les élastiques, ben voilà, un camp d'entraînement, vous avez fait trois jours où vous avez vraiment fait de la grosse charge et tout, vous voulez faire un jour où vous récupérez un petit peu mais vous le mettez à profit, et ben c'est le jour où vous trouvez l'endroit idéal pour faire ça, où il n'y a pas de voiture, où il n'y a pas de trafic, etc. Vous prenez vos chaussures, vous les collez avec des élastiques sur votre vélo, et puis vous faites 30, 40, 50 fois la montée et la descente du vélo, enfiler les chaussures, on pédale trois tours de pédale, et puis on revient au départ et on refait ça, mais on le multiplie jusqu'à ce que le mouvement il soit parfaitement acquis, que la technique elle soit parfaitement maîtriser. Et puis bah, tout ça c'est gagné non seulement pour les courses qui arrivent, mais aussi pour les saisons à venir.
Bon, et puis on le répète souvent, on ne teste rien à l'entraînement. Donc justement, le stage, c'est peut-être le bon moment pour tester ces choses-là et puis pour acquérir certaines compétences que l'on avait un peu laissées de côté. Vu qu'on en est aux généralités sur l'aspect stage d'entraînement aussi, alors c'est pas tout à fait à mettre au rayon des généralités, mais est-ce qu'on peut parler alimentation, sommeil et tous les à côté, notamment quand on fait un stage sans partir de chez soi, quand on s'accorde, comme tu l'as dit, trois semaines avant Thun, t'as pris une semaine, tu t'es posé chez toi, t'as augmenté le volume, mais j'imagine que t'as adapté aussi ton planning par ailleurs, ton planning non sportif, pour être dans de meilleures conditions pour t'entraîner et autres. Comment ça se passe en termes d'alimentation, en termes de sommeil? Est-ce qu'on modifie tout? Est-ce qu'on mange tout ce qui nous passe sous la main? Ou au contraire, c'est le moment où on va pouvoir peut-être essayer de porter une attention un peu plus particulière sur la qualité de l'alimentation qu'on va avoir et apporter tous les nutriments nécessaires pour cette augmentation de charge pendant une période donnée?
Bon, moi je suis pas nutritionniste, je suis pas un énorme spécialiste de la nutrition. J'ai bénéficié des conseils de Denis, j'ai lu quelques références sur la nutrition sportive, et puis bah du coup là-dessus je fais au mieux en essayant d'avoir une alimentation qui est équilibrée mais sans être trop contraignante. Et puis c'est vrai que pendant un stage on n'a pas forcément 100% le contrôle de ce qu'on mange. Si par exemple on est logé à l'hôtel et qu'on a pris la demi-pension, et bah le soir on a ce qui est proposé à l'hôtel, donc il faut faire au mieux avec ce qu'on a. Si on est chez soi, on a peut-être un petit peu plus de marge de manœuvre en termes de nutrition. Moi, j'essaye de pas faire des énormes catastrophes, mais je suis pas non plus minutieux à un point où je vais contrôler chaque gramme de chaque micronutriment. Je pense qu'il faut éviter de faire des excès, quels qu'ils soient. Je pense que c'est important de continuer à manger équilibré. Donc on va donner les références des nombreux épisodes où Denis nous rappelle les quantités, les proportions de glucides, lipides, protéines. Donc essayer de garder grosso modo ces ratios là. Et puis c'est clair que éviter les nuits trop courtes, mais je pense que pendant un stage d'entraînement, en tout cas, moi, c'est clair que je sens quand je suis fatigué, quand est-ce qu'il faut que j'aille dormir. Et puis, s'il y a une nuit qui se passe pas bien, le lendemain, c'est très compliqué. Et la nuit suivante, je peux te garantir que je dors. Enfin, je suis pas en train de dormir, je tombe carrément dans le coma. Donc, voilà, il y a un moment où le sommeil finit par te rattraper. Mais c'est sûr que c'est pas forcément le lieu ni l'endroit idéal pour aller faire des soirées en boîte de nuit jusqu'à 2h30 du matin si le lendemain à 8h ça part à vélo, quoi.
Puis je sais pas si t'as des anecdotes à raconter là-dessus, mais c'est vrai que moi j'ai fait quelques stages, et notamment un que j'ai organisé avec un ami au centre national d'entraînement en altitude à Font-Romeu, et on arrive tout pimpant le premier jour. Alors le premier jour, l'effet entraînement plus l'effet altitude, je peux te dire qu'à 19h30 tu commences déjà à piquer du nez, tu vas au self pour manger quand même ce que tu peux, et à 20h tu fais pas long feu. Et le deuxième jour c'est pareil, donc je pense que ça vient aussi très naturellement, cette fatigue qui commence à s'accumuler, et ton corps qui te dit bon allez, c'est pas le moment de te faire une série Netflix ou de te mettre à faire du montage de podcast, là t'éteins tout et tu vas te coucher.
Ouais, bah c'est sûr, hein, c'est des semaines qu'on dédie à ça, et puis bah la récupération au jour le jour est aussi importante.
On a bien parlé de tout ce qui est aspect justement généralité, comment est-ce qu'on va préparer son stage. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail du stage en lui-même. On sait à quelle date on va partir en stage. Maintenant, comment est-ce que on prépare ? Prenons le cas d'un triathlète, hein, on va pas prendre le cas d'un nageur ou d'un coureur ou d'un cycliste, c'est-à-dire un monosportif, mais prenons déjà le cas du triathlète. Comment est-ce qu'on va pouvoir placer sa charge d'entraînement sur la semaine ? Est-ce qu'on met les grosses sessions dès le premier jour et puis on décharge après, ou est-ce que on charge progressivement ? Quel est toi ton aspect, et où est-ce qu'on place l'éventuel jour de repos?
Tout va encore dépendre de l'objectif visé pendant ton stage d'entraînement, et puis un petit peu comment tu le perçois. Maintenant, pour un triathlète, bah c'est sûr qu'on va essayer d'intégrer deux sports par jour, je pense, au minimum. Quand on va en stage d'entraînement avec mon club, on essaye d'avoir une ligne d'eau assez tôt le matin pour pouvoir aller faire une petite séance de natation le matin avant le petit déjeuner. Donc voilà, mais c'est vraiment une natation super light. De moins de 2000 mètres à des allures qui sont pas du tout intensives. C'est vraiment un espèce de réveil musculaire, si on veut bien. Ensuite, c'est une grosse sortie vélo, et puis la journée est finie. Ou alors c'est une sortie vélo un peu plus courte avec un enchaînement de courses à pied plus ou moins long. Donc là, on équilibre un petit peu les distances de l'un et de l'autre pour garder une charge à peu près homogène par jour. Et puis on fait ça sur une semaine vraiment de 7 jours, on fait ça 3 jours, on fait une journée où on fait repos, donc comme on disait, on peut intégrer des parties très techniques sur cette journée de repos, et puis ensuite de nouveau 2 ou 3 jours. Donc moi j'aime bien couper au milieu de la semaine avec une journée de repos. Maintenant, si on part en camp d'entraînement, c'est clair que c'est bien d'avoir un petit regard sur l'application météo pour voir quel jour il serait idéal de passer la journée de repos. C'est dommage de placer une journée de repos le mercredi quand il fait grand soleil, grand beau, et puis on profite bien de la terrasse, on boit quelques cocktails peut-être, mais si le lendemain, quand il faut remettre le couvert, il fait moche, il pleut et c'est la grosse journée de pluie de la semaine, on se dit bon, on aurait peut-être pu inverser les deux, ça aurait pas coûté grand chose. Donc ça, c'est aussi un aspect peut-être à regarder suivant où on est et la météo qui est proposée. Ça peut ne pas être que de la pluie, mais aussi du vent ou d'autres paramètres. Donc il y a aussi des paramètres de ce type-là qu'il faut entrer en ligne de compte. Et puis, comment est-ce qu'on répartit la charge ? C'est sûr que le premier jour, on va pas faire 150 km de vélo et puis enchaîner avec 20 km de course à pied derrière. C'est pas la peine non plus de cramer la machine dès le premier jour. Donc, c'est de faire une première journée avec une charge modérée, une deuxième journée où on augmente un petit peu, et puis ensuite, on voit comment ça va dans la semaine, et de mettre les plus gros volumes sur la fin, d'une part pour être sûr qu'au moment où on fait ces charges-là, bah derrière, on a quelques jours de récupération, et puis c'est pas qu'on est tout cassé le lendemain dans son lit, dans sa chambre d'hôtel, en disant « bah mince, je suis là pour 7 jours, mais le deuxième jour, je suis déjà tout cassé ». Donc, c'est pas forcément l'objectif non plus. Donc, il y a les crescendo. Après, ça dépend aussi l'objectif qu'on vise. Si vraiment on veut viser de la résistance parce qu'on est déjà bien avancé dans sa préparation et puis que on a, je sais pas, une course sur plusieurs jours ou des courses très longues, on peut mettre du volume très fort tout de suite et puis essayer de le maintenir le plus longtemps possible tant que ça tient dans la semaine. Après, chacun sa stratégie. Moi, je pense qu'il y a les crescendo avec une petite sortie type prologue la première journée où on fait 40-50 km de vélo et puis on enchaîne avec un petit 10 km de course à pied, déjà pour voir comment ça se passe, peut-être éventuellement découvrir un peu les lieux, et puis, que tout ça se passe dans la joie et la bonne humeur, puis que tout se passe bien le lendemain, plutôt que de tout casser la première journée.
Moi, je pense qu'il y a aussi deux points, en tout cas, qui me sont personnels, qui peuvent aider nos auditrices et nos auditeurs à planifier leur stage d'entraînement. C'est que, déjà, quand je fais plus de 4-5 heures de route, pendant encore 12 à 20 heures, j'ai les jambes bien explosées. Donc, si vous allez de la Suisse aux Canaries, aux Baléares ou en Espagne, que ce soit en voiture ou en avion, pensez à ça pour la première journée de stage. Et puis, dans la planif, il y a un autre point aussi auquel moi je pense, c'est l'aspect s'entraîner juste après avoir déjeuné ou juste après avoir mangé de manière générale. Alors effectivement, si on se prépare pour un Ironman, il va peut-être falloir intégrer la stratégie de nutrition dans la préparation de l'entraînement. Okay, si on se prépare pour des choses un peu plus courtes, évitez de planifier la pause déj entre midi et 2 et de mettre une grosse sortie course à pied à 14h30 parce que ça passera peut-être pas. Donc ça, c'était mes deux petites contributions. Je sais pas ce que t'en penses, toi, si tu regardes aussi ces aspects-là dans la planification de tes stages.
Alors écoute, en général, hein, la journée, elle est rythmée avec dès la fin du petit déjeuner, on va se préparer pour la sortie vélo et puis on démarre sur le vélo, c'est vrai, peut-être une heure après avoir fini son petit déj. Maintenant, sur le vélo, c'est pas autant un problème qu'en course à pied. C'est sûr que si tu fais un stage ou une journée, tu veux vraiment mettre le paquet sur la course à pied puis faire éventuellement 2-3 séances de course à pied dans la journée. Je sais qu'il y a des stages de course à pied où ça se fait régulièrement. Là, tu peux pas partir 45 minutes après avoir pris un bon copieux petit déj et puis partir avec un échauffement puis ensuite des 5 fois 1000 mètres parce que ça va être très très problématique. Maintenant,
à moins que tu sois pas très loin d'une zone de change.
Ouais, mais le camp d'entraînement de triathlon, il permet ça parce que sur le vélo, on peut partir la première heure un petit peu tranquille et puis voilà, ça permet de faire la fin de la digestion de ton petit déjeuner. Puis au fur et à mesure de la journée, tu vas pouvoir augmenter l'intensité, surtout si t'as prévu une sortie assez longue. Donc voilà, il y a aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai que chaque individu réagit différemment. Il faut peut-être aussi trouver des petites modifications à apporter à son petit déjeuner pour qu'il passe mieux que le petit déjeuner qu'on prend habituellement. Et puis ça permet aussi de valider le petit déjeuner qu'on va prendre avant la course, sachant que s'il est bien passé dans les stages d'entraînement, c'est-à-dire qu'il nous a donné de l'énergie pour toute la journée et que on a pu commencer le sport relativement peu de temps après avoir pris le petit déjeuner, voilà, c'est une bonne occasion, comme nous le disait encore Denis Boucher, de noter ça, de prendre note de ce qu'on a essayé. Pourquoi pas chaque jour prendre un petit déjeuner différent, puis voir un petit peu les différences qu'il y a, et puis faire son plan de nutrition pour le jour J lors du camp d'entraînement.
On l'a dit, on a pris le cas du triathlète, donc ce qui permet d'avoir des entraînements plutôt diversifiés pendant le stage d'entraînement. On va pratiquer le vélo, la natation, la course à pied. Moi, je donnerais aussi comme conseil de pas hésiter, et tu l'as dit aussi, travailler d'autres aspects, notamment techniques, mais aussi la muscu, la PPG, tout ce qui va permettre de rajouter encore un petit peu de changement et éviter la monotonie.
Alors oui, moi c'est principalement le stretching et les exercices d'étirement que je pratiquais pendant les stages. C'est vrai que j'ai pas beaucoup fait de renforcement spécifique de circuit de training ou d'autres exercices spécifiquement pour la force, mais oui, la récupération, c'est aussi le bon moment de tester des trucs en récup aussi, de tester pourquoi pas une boisson de récup, pourquoi pas d'emmener son Compex qu'on sort rarement et puis de se dire tiens, je vais essayer tel ou tel programme de récup sur telle ou telle partie de muscle où j'ai un petit bobo pour voir ce que ça donne, de tester quelques mouvements d'étirement et ce genre de choses. Et puis d'une idée plus générale, tu dis que c'est monotone. Maintenant, c'est vrai que nous, quand on part en club, c'est pas non plus les camps d'entraînement des professionnels. C'est vrai que moi j'ai eu vu notamment au club La Santa à Lanzarote des professionnels qui s'entraînent. Des fois t'as l'impression qu'ils vivent en prison, quoi, parce que ils font vraiment leur exercice sportif, ensuite ils mangent, t'as l'impression que dans leur assiette ils ont pesé au gramme près le blanc de poulet et puis le riz cuit vapeur dans leur assiette. Et c'est un peu triste. Moi, quand je vais en camp d'entraînement, bien sûr, l'idée, c'est aussi de s'entraîner et d'être un petit peu sérieux à ce niveau-là, mais pas que. Et le soir, bah, ça nous arrive d'aller boire un verre entre membres du club, de discuter, de rigoler. Et puis voilà, pendant les sorties vélo, c'est pareil. Si un jour, on a prévu une sortie de 140, 160 kilomètres, on part, mettons, le matin à 9, 10 heures, bah, sur le coup des 12, 13 heures, on s'arrête sur une terrasse, on mange un petit quelque chose et puis voilà, on prend une heure et demie de pause. Pas forcément tous les jours, pas forcément lors des sorties intensives, mais voilà, une ou deux fois dans le camp d'entraînement, ça développe aussi le côté social qui, je pense, est assez important. C'est vrai qu'en tout cas, quand on y va en club ou en groupe d'amis, c'est aussi une partie importante pour moi. Et faire du sport avec les œillères toute la journée, c'est pas non plus mon truc. Si je pars une semaine, bah je le prends sur mes vacances. J'en ai pas un nombre illimité dans l'année, donc il faut aussi que ça reste un moment festif, un moment éventuellement de découverte. Pourquoi pas, on n'en a pas parlé, mais le jour de récupération, bah, si on est à Majorque ou qu'on est aux Canaries, il y a autre chose à voir que les routes et les sentiers où on va rouler et courir. Pourquoi pas prendre un petit guide touristique du lieu et puis le jour de la récup, bah, aller visiter une curiosité à proximité, quelque chose qu'on voit pas depuis les parcours vélo qu'on emprunte. Ça permet de découvrir aussi des nouveaux endroits, des nouvelles choses. Et puis bah voilà, c'est un peu le côté vacances du camp d'entraînement, même si la priorité reste de faire du sport, il y a pas que ça.
Alors tu parles du côté vacances, on va pas revenir sur l'épisode qu'on a fait justement pendant les vacances sur comment voyager avec son vélo et avec son matériel, même si ça fait partie de la stratégie de préparation du plan. Malgré tout, bah voilà, on revient pas sur l'épisode, mais pensez-y, si vous allez faire un stage triathlon au Baléares, aux Canaries ou à quelques centaines de kilomètres de chez vous, eh ben vous allez devoir ramener votre vélo. Donc on vous invite à aller réécouter les derniers épisodes où on parle de ça justement. Tu parles de l'aspect social de ces stages aussi. On le rappelle, on peut faire des stages seul, on peut faire des stages organisés entre guillemets à l'arrache entre amis, mais on peut aussi faire des stages avec des clubs ou avec des structures qui proposent des stages d'entraînement. Est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion de tester tout ça ou est-ce que tu y vas plutôt sensiblement avec ton club ou avec des structures spécifiques?
Non, les stages que j'ai faits, c'est tous avec le club ou alors avec des groupes de personnes. C'est vrai que l'hiver, je m'entraîne régulièrement sur la piste à vélo sur le site de l'UCI à Aigle. Et donc, je vais dans le vélodrome pour rouler là. Et il y avait une équipe qui organisait des stages aussi à Majorque. Et une fois, j'étais parti avec eux. Donc voilà, c'est toujours des personnes que je connais ou en tout cas des personnes avec qui j'ai fait du sport, avec qui je suis parti. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres possibilités pour organiser ça et de partir avec d'autres sportifs qu'on connaît pas forcément si on n'est pas entouré de personnes sportives ou qu'on n'est pas membre d'un club. C'est aussi la possibilité d'utiliser une structure qui organise ce genre de camp d'entraînement. Alors les personnes qui ont déjà concouru sur des courses labellisées Ironman ou Ironman 70.3 ont sûrement déjà reçu plein de publicités pour le groupe Nirvana qui organise aussi des stages d'entraînement. Alors ils ont cette offre là ou alors il y a des structures, des sites qui sont spécialement dédiés aux camps d'entraînement sportif. Je pense par exemple ici à des sites comme la Santa à Lanzarote, qui est vraiment un complexe sportif complet où on a la possibilité d'aller faire du vélo partout sur l'île de Lanzarote. Et puis c'est un complexe qui accueille, je crois, 3 ou 4 piscines de taille olympique, 2 pistes d'athlétisme. Enfin, il y a vraiment tout pour l'entraînement des sportifs et des triathlètes, mais pas que. Il y a aussi des cours de tennis, il y a aussi, sauf erreur, des clubs de sport nautique, donc planche à voile, paddle, etc. Donc il y a vraiment tout là-bas. Vous pouvez les contacter, ils vont vous faire une offre sur mesure pour aller faire un stage d'entraînement seul, en groupe de 2 ou 3, ou alors en groupe de 20. Et puis de vous organiser une semaine en fonction du sport que vous souhaitez pratiquer, quoi. Donc il y a plusieurs possibilités. Mais aujourd'hui, avec les possibilités qui sont offertes de transport et d'hébergement, je pense qu'on se met à un groupe de 2 ou 3, on définit une destination, des dates, et puis entre les sites d'hébergement type Airbnb ou alors les offres d'hôtels, etc., on arrive à organiser un petit camp comme ça sur le pouce entre amis, entre sportifs, et puis passer un bon week-end prolongé ou une bonne semaine.
Je voulais aussi glisser, parce que je l'avais reçu dans un autre podcast que je produis qui s'appelle Devenir triathlète, les stages qui sont organisés par la famille de Sam Laidlaw. Alors Sam Laidlaw, c'est un jeune triathlète qui commence à compter dans le triathlon distance Ironman, et avec son papa et sa maman, ils ont justement une structure de stage d'entraînement qui se trouve dans les Pyrénées orientales. Et donc voilà, un petit clin d'œil pour Sam. Et puis si vous cherchez, ça s'appelle le sanctuaire du sportif, je pourrais vous organiser ou vous faire organiser des stages d'entraînement. J'aimerais bien qu'on revienne sur les stages que tu as fait. Est-ce que tu as quelques anecdotes à nous raconter sur certains stages, et puis peut-être les différents endroits où tu as déjà été en stage pour donner envie, ou au contraire retenir nos auditrices et nos auditeurs d'aller dans des endroits qui t'auraient pas forcément satisfait.
Alors écoute, l'endroit où j'ai le plus fait de stage, c'est clairement Majorque, dans les Baléares. Le climat est vraiment super agréable à partir du mois de mars. Quand chez moi ici, c'est encore souvent des conditions très très aléatoires. C'est vrai qu'à Majorque, on a des bonnes conditions pour rouler en tenue courte dès le début du mois de mars. Après, ça dépend évidemment un petit peu des années, mais on a souvent des très belles semaines où il y a peut-être un ou deux jours grand maximum qui sont un petit peu plus mitigés. Mais c'est une destination que j'apprécie particulièrement. Alors c'est vrai que quand t'as fait 10 ans ton stage au début de l'année à Majorque, t'as peut-être envie un petit peu de changer. C'est pour ça que après avoir été en stage spécifiquement pour préparer l'Ironman de Lanzarote en 2012, j'avais émis l'idée au club qu'on puisse aller faire une fois un stage là-bas, et on l'avait fait en tout cas une fois, donc ça c'était une bonne idée. Fuerteventura, c'était peut-être un petit peu moins une réussite l'année passée, dans le sens où Fuerteventura est une île qui est pas forcément super sexy en termes de paysage et en termes de paysages variés et tout ça, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, des destinations, il y a aussi le sud de la France, hein, les Pyrénées orientales, tu en parles. Moi j'étais allé faire une fois un stage d'entraînement de 3-4 jours spécifiquement pour le vélo avec un ami de club là-bas, et c'était vraiment aussi des super parcours, des super sorties qu'on a fait dans ce coin-là. Donc je sais que le club part cette année en Toscane pour aller faire un autre camp d'entraînement. Moi j'y suis pas allé, donc voilà, à voir les retours que ça va donner sur ces régions-là. Mais c'est des régions qui sont très différentes, hein. Lanzarote, c'est vraiment des paysages très particuliers, volcaniques. Il y a souvent du vent, donc voilà un exemple d'entraînement où on va se faire le mental sur le vélo, et puis faire des natations dans des conditions assez optimales. Majorque, c'est vraiment une destination idéale, mais pas trop tôt dans l'année. C'est vrai que les Canaries, on peut y aller toute l'année, on a des bonnes conditions. Majorque, il faut quand même attendre le début du mois de mars. J'avais été en Andalousie une année. C'est vrai que les paysages sont aussi un petit peu moins variés, c'est pas très vallonné, donc avec un vélo de triathlon et puis posé sur les prolongateurs sur 160 bornes, bah si c'est ce qu'on veut travailler, c'est super intéressant. Si on veut un petit peu de variation dans les difficultés sur le parcours de vélo, c'est un petit peu moins la bonne destination. Donc voilà, après des anecdotes au niveau de ces destinations, bah tu disais qu'il faut emmener son vélo, alors ça donne souvent lieu à des petits soucis logistiques, qu'il faut l'emmener dans l'avion la première fois qu'on le transporte, après il y a le remontage, des gens qui n'ont pas les outils nécessaires à remonter le vélo, mais finalement on s'en sort toujours. Mais c'est pas une obligation à d'emmener son vélo. Par exemple à Majorque, il y a plein de services qui te permettent de louer un vélo pendant une semaine sur place. Alors en particulier si tu roules sur un vélo classique, hein, sur un vélo triathlon, c'est un petit peu plus compliqué de retrouver exactement tes réglages et tout, mais sur un vélo classique de route, il n'y a pas besoin d'emmener ton vélo, tu peux en louer un sur place et t'éviter tous les ennuis, tous les coûts liés au transport là-bas. Pareil à Lanzarote, je crois que le club La Santa a aussi un service de location de vélo. Et puis, du coup, voilà, ça évite quelques soucis pour les personnes qui sont allergiques à la mécanique du vélo quand il faut remonter son vélo une fois arrivé sur place. Voilà un petit peu.
Et puis quand il faut le remonter une deuxième fois une fois revenu à la maison.
Alors c'est ça. Ou alors on le laisse sur place en disant bon bah voilà, ça ira dans les pertes et profits. J'ai pas réussi à le redémonter, il restera ici. Mais non, on trouve toujours quelqu'un qui est capable de nous aider à monter, démonter le vélo et à le transporter. Mais des fois voilà, c'est peut-être plus confortable d'arriver sur place, de prendre son vélo et un mécanicien qui le met à vos mesures et puis vous partez rouler. C'est du tracas peut-être en moins pour certaines personnes. Moi, j'aime beaucoup rouler sur mon propre vélo, donc je l'ai à chaque fois transporté.
Bon, moi, je voulais juste partager. Alors, on a déjà fait quelques stages organisés avec des amis, avec un entraîneur et autres dans des endroits un petit peu atypiques, c'est-à-dire pas des endroits spécifiquement réservés à des entraînements sportifs comme le club de la Santa, Lanzarote ou autre. Donc là, je m'abstiendrai bien d'en parler, si ce n'est sur la partie organisation où effectivement on a respecté un petit peu tout ce qu'on disait, c'est-à-dire que faire attention à ce que ça s'intègre bien dans la préparation. Une fois qu'on a bien les dates, et bien s'organiser sur quel jour on va faire quoi, ce genre de choses. Et malgré tout, on a organisé aussi une fois avec un ami, j'en parlais tout à l'heure, un stage au CNEA de Font-Romeu. Et là, je dois dire que, en tout cas à l'époque, on avait tout ce qu'il fallait à disposition. Dès lors qu'on les prévient suffisamment tôt, qu'on réserve comme il faut et qu'on précise ce dont on a besoin, on a l'accès aux piscines, on a l'accès aux salles de musculation, on a évidemment l'accès au self. Et là, bah, l'avantage, c'est que c'est un centre d'entraînement national et les cuistots font exactement ce qu'il faut pour apporter tous les nutriments nécessaires. Donc en général, on choisit au self, mais on a déjà toute la nourriture qui va bien. Et puis on avait été aussi assez surpris parce qu'on avait pris en pension complète de prévenir pour un jour ou deux où on allait faire des grosses sorties vélo et donc on allait pas manger au self. Et les personnes de l'administration nous avaient proposé si on voulait un panier repas spécifiquement adapté pour pouvoir l'emmener sur le vélo. Donc en fait, on a presque rien à penser. Et donc bon, ça remonte déjà à quelques années, mais de tous les retours que j'ai, ça se passe toujours très bien. Donc si vous cherchez une destination pas trop loin et en France, eh ben pensez au CNEA de Font-Romeu. Sur l'aspect retour d'un point de vue purement sportif, est-ce que tous tes stages d'entraînement que tu as effectués t'ont apporté les retours que tu attendais? Notamment tout à l'heure, tu parlais de surcompensation. Est-ce que tu as toujours su bénéficier de cette surcompensation ou est-ce que tu as eu parfois des mauvaises surprises ou est-ce que des fois tu t'es dit bah finalement si j'avais pas fait le stage ça m'aurait pas changé grand-chose dans ma prépa?
Alors non, ça a toujours été bénéfique. Maintenant, des fois c'est difficile quand on planifie des camps d'entraînement, comme je le disais, hein, début mars ou même mi-mars à Majorque, on a la possibilité de faire des belles semaines d'entraînement où on roule presque 800 1000 km sur le vélo, peut-être sur des grosses semaines où on arrive à faire aussi pas mal de courses à pied, développer un petit peu de technique en natation. Et puis on revient ici chez nous et la météo est moche, on n'a pas forcément la possibilité de poursuivre sur la lancée et de faire des sorties de 120-140 km parce qu'il pleut, parce que limite il neige encore un petit peu, parce qu'il fait froid. Et puis du coup des fois c'est peut-être un petit peu ça qui est compliqué, c'est de se dire bon bah la semaine je l'ai faite peut-être un petit peu tôt pour vraiment bénéficier ici au retour. Mais après quand on peut démarrer l'entraînement de manière un petit peu plus costaud et confortable chez nous, on sent quand même que on vient pas de nulle part et puis que la semaine d'entraînement elle a quand même été bénéfique, surtout si on arrive quand même à maintenir un minimum en serrant les dents jusqu'à ce que la météo devienne plus clémente. Mais j'aurais tendance à dire que c'est pas non plus la peine de partir trop tôt si les conditions météo sont vraiment très incertaines chez nous quand on va revenir. Parce que c'est dommage d'aller faire une semaine d'entraînement et puis de vraiment commencer à bien se sentir à l'aise sur des sorties longues à vélo après. Et puis que bah, quand on rentre, on peut sortir 30 km avant d'avoir les doigts de pied gelés. C'est un petit peu dommage, quoi.
C'est clair. Est-ce qu'il y avait des points que j'aurais laissé de côté pour cet épisode que tu aurais voulu aborder ou tu penses qu'on a fait déjà une bonne partie du job aujourd'hui?
Je pense qu'on a abordé les retours d'expérience que toi et moi, on a pu avoir. Maintenant, on peut tout imaginer dans une semaine sportive. Hein. Il n'y a pas forcément non plus besoin de planifier que ça. On peut aussi profiter d'une semaine moitié vacances, moitié sport, et puis conjuguer peut-être un petit peu plus de sport, mais garder la vie familiale ou d'autres aspects comme ça. Et puis, voilà, c'est modulable à l'infini. C'est ce que je disais tout au début. Hein, c'est vraiment en fonction de l'objectif qu'on se fixe, et puis du résultat qu'on veut obtenir par rapport au moment où on le place et la manière dont on l'intègre dans son plan d'entraînement. On peut tout à fait faire une semaine de vacances en Corse en famille et puis profiter d'être au bord des plages pour faire un petit peu plus de volume en natation en eau libre, faire une petite sortie de course à pied le matin et puis une sortie vélo en fin d'après-midi et puis passer le reste du temps avec la famille et puis profiter comme ça aussi d'une semaine de vacances pour augmenter son volume d'entraînement. Donc il y a pas de règle, faites comme vous avez envie. Et puis surtout, c'est essentiel hein, pour moi, les sportifs amateurs ne doivent pas se sentir en prison lors de ces semaines-là. Ça doit quand même être une semaine de plaisir avant tout. Donc oubliez pas le côté un peu festif et le côté un petit peu social. Oubliez pas d'accorder un petit peu de temps à la récupération aussi, parce que sinon vous allez tout casser avant la fin de la semaine. Et puis, je crois qu'on aura résumé les conseils les plus importants.
Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation. Et nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours, normalement, avec un invité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette fois-ci, je te laisse plus tout seul, je serai là.
Ouais, bah oui, parce qu'en tant que co-animateur, quand même, Hermano, deux mots à nos auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, quels sont ces petits changements qui t'ont pris tant de temps sur ces dernières semaines?
Tout simplement, déjà, tu en parlais il y a quelques instants, la famille qui reste... une de mes grosses priorités, donc il a fallu jongler avec tout ça, et puis surtout pas mal de changements de vie aussi de mon côté. Je vais quitter le Luxembourg pour revenir en France, pas très loin des Pyrénées-Orientales dont je parlais tout à l'heure, où se trouve Sam Laidlaw. Alors pas forcément pour aller lui serrer la pince, mais en tout cas pour m'installer, pour ouvrir, si tout se passe bien, l'année prochaine, un gîte et des chambres d'hôtes, et mon objectif est aussi d'accueillir des sportifs qui voudraient venir faire des stages. On a fait cet épisode aujourd'hui sans forcément imaginer qu'on en parlerait. Regardez ça sous le coude si vous avez l'intention de faire des stages d'entraînement sportif, qu'ils soient encadrés ou pas, et bien normalement l'année prochaine je serai à même de vous proposer tout ça.
Et ben c'est magnifique, on se réjouit de venir découvrir cette région aussi bien en natation qu'à vélo et en course à pied.
Et puis bon, il y a aussi ma préparation pour mon défi Agrippa qui aura lieu l'année prochaine en mai 2022, donc tout ça, ça m'a pris un peu de temps, et puis je voyais que tu lidais tout ça d'une main de maître, ou plutôt d'un micro de maître, donc je t'ai laissé gérer.
Voilà, je m'en suis sorti, mais à deux c'est quand même plus sympa que de faire un long monologue derrière un micro, donc on se réjouit de te retrouver dans les prochains épisodes, et comme tu le disais, dans deux semaines on devrait avoir un invité derrière le micro pour découvrir de nouvelles thématiques du monde du sport et même plus.
À dans 15 jours, chères auditrices, chers auditeurs, on vous souhaite une bonne continuation. Et puis, comme toujours, n'hésitez pas, laisser un commentaire sur Apple Podcast si c'est pas déjà fait, à partager l'épisode si celui-ci vous a plu, à prendre contact avec nous, podcast@nakan.ch, pour nous laisser un petit message, vos retours, comme l'ont fait de nombreux auditeurs ces dernières semaines. Alors, on s'excuse, on n'a pas forcément répondu à tout le monde tout de suite, mais c'est sur la to-do list. Je voulais aussi placer un petit truc avec l'application Tumult. Maintenant, vous pouvez, si vous écoutez le podcast, réagir à l'instant précis de l'épisode où vous souhaitez laisser un commentaire. Et donc, ça peut être aussi un bon moyen de nous faire vos retours pendant l'épisode. Et nous, on se fera un plaisir d'y répondre, en tout cas de mon côté. Et puis, je passerai la patate chaude à Greg si c'est trop technique pour moi.
Ok, bah ça marche. En tout cas, on se réjouit d'avoir vos retours, vos feedbacks sur tous ces épisodes qu'on enregistre avec grand plaisir. Et puis, on se réjouit de vous retrouver dans deux semaines.
Ciao, ciao.